Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un document assez interpellant. Discours sur le climat, le bonheur est possible. L'objectif, c'est vraiment d'extraire les idées clés d'une analyse critique du discours ambiant sur le climat. Mais attention, en se basant uniquement sur ce que dit ce texte.
Exactement.
C'est un sujet, on le sait, complexe. Et cette source-là, eh ben, elle soulève des questions sur des choses qu'on entend souvent comme acquises. Le consensus scientifique, par exemple, l'interprétation des chiffres, la fiabilité des modèles, ou même le lien CO2-température.
Tout à fait. L'idée ici, c'est pas d'imposer une vérité, hein, mais plutôt d'examiner les arguments tels qu'ils sont présentés dans ce document précis, pour comprendre la perspective.
D'accord.
On peut commencer par ce fameux consensus scientifique. Le texte, il est assez critique envers les études qui affirment 97% ou même 99% d'accord, comme celle de Cook ou Linas.
Ah oui. Et pourquoi? Quelle est la critique principale?
Selon la source, la méthodologie pose problème. Elle suggère que ces études auraient, en quelque sorte, compté les articles scientifiques qui étaient neutres ou qui ne se prononçaient pas clairement sur l'origine humaine du réchauffement.
Comme s'ils soutenaient la thèse.
Voilà, c'est ça. En gros, l'absence d'opposition serait interprétée comme assoudir, ce qui, forcément, gonflerait les chiffres du consensus.
Intéressant comme angle d'attaque sur le consensus même. Et si on parle des données elles-mêmes, le texte en dit quoi? Parce que le consensus, il repose bien sur des données, non?
Absolument. Et là aussi, le document pointe des ambiguïtés, ou du moins des interprétations alternatives. Il y a un exemple qui est donné, via Stephen Kunin, sur les records de température aux États-Unis.
Oui.
Un graphique officiel issu d'un rapport américain montrait une augmentation assez nette du ratio entre les records de chaleur et les records de froid. Ça semblait alarmant.
D'accord.
Mais Kunin, d'après la source toujours, explique que ça pourrait être un artefact statistique lié à la méthode des running records, c'est-à-dire qu'on compare chaque jour seulement au même jour des années passées.
Ah d'accord, et donc ?
Et donc, ça masquerait le fait que les records de chaleur absolus, les températures les plus hautes jamais enregistrées pour un lieu donné, eux n'auraient pas vraiment augmenté de manière significative depuis les années 1930.
Je vois. La façon de calculer change le message.
C'est un peu ça. Le texte mentionne aussi d'autres points, comme l'effet d'îlot de chaleur urbain, qui ne serait pas toujours bien corrigé dans les mesures de température globale. Ou encore des ajustements faits sur les données anciennes, satellitaires ou terrestres, qui créeraient ou amplifieraient des tendances au réchauffement.
D'accord. On a parlé du consensus, des données. Le cœur du sujet, c'est quand même le lien CO2-température. La source remet ça en question aussi.
Ah oui, c'est un point central du texte. Il rappelle d'abord les analyses des carottes glaciaires, Vostok notamment, des travaux comme ceux de Caillon ou Jouzel.
Oui, le fameux décalage.
Exactement. Qui montrait que lors des grands cycles passés, le CO2 semblait suivre la température avec un retard de plusieurs siècles, environ 800 ans. Mais ce qui est peut-être plus frappant, c'est que la source cite d'autres études, plus récentes, Kuo, Umlum, Koutsoyanis, qui observeraient un décalage similaire, mais sur des échelles de temps beaucoup plus courtes.
C'est-à-dire ?
Eh bien, que les variations de CO2 suivraient celles de la température de seulement quelques mois, ce qui inverserait la causalité qu'on met habituellement en avant pour la période actuelle.
Donc, la température bougerait d'abord et le CO2 suivrait.
C'est ce que ces études suggèrent, d'après la source. Et certains chercheurs cités, comme Koutsoyanis, vont même plus loin. Ils calculeraient que la contribution directe du CO2 d'origine humaine à l'effet de serre total serait minime.
Minime comment ?
De l'ordre de 0,2%. Il argumente que le facteur ultra-dominant, c'est l'eau, sous forme de vapeur et nuages, 0,2%. C'est une affirmation qui va vraiment à l'encontre du discours habituel.
Si la source met en doute les données et ce lien CO2-température, j'imagine qu'elle est aussi critique envers les modèles climatiques qui prédisent l'avenir.
Tout à fait. Le texte exprime de sérieux doutes. Il rappelle d'abord leur sensibilité aux conditions initiales. C'est un peu l'écho de la théorie du chaos de Lorentz. Une toute petite imprécision au départ peut donner des résultats complètement différents à long terme.
Oui, l'effet papillon.
C'est ça. Ensuite, la source parle du besoin de régler les modèles, on dit « tuning » en anglais, c'est-à-dire qu'on ajuste des paramètres pour que le modèle colle aux observations passées. Une pratique que la source juge potentiellement arbitraire, un peu comme des fudge factors.
D'accord.
Et puis, il y a un paradoxe qui est souligné. Les modèles les plus récents, ceux du projet CIMEP-6, qui servent de base au dernier rapport du GIEC, ils montrent une fourchette d'incertitude plus grande pour la sensibilité climatique, le réchauffement attendu si le CO2 double, que la génération précédente, CIMEP 5.
Ah bon, c'est curieux, on s'attendrait à plus de précision avec le temps, non ?
Exactement, c'est contre-intuitif. Et Nicolas Scavetta, cité dans le texte, note d'ailleurs que la plupart de ces modèles CIMEP6 ont tendance à surestimer le réchauffement qu'on a observé jusqu'à présent.
Plus d'incertitudes dans les modèles récents, c'est un point technique mais lourd de conséquences. Et sur les événements extrêmes, ouragans, sécheresses, on les lie souvent directement au changement climatique.
Là aussi, le document se montre sceptique, en citant des travaux comme ceux d'Alimenti et ses collaborateurs. Selon eux, quand on regarde les données historiques sur le long terme, il serait difficile de trouver des tendances claires, statistiquement significatives, à la hausse pour les ouragans, les sécheresses ou les inondations, contrairement à ce qu'on entend souvent dans les médias.
D'accord.
Et bien Lomborg est aussi cité. Pas pour nier les phénomènes, mais pour montrer que la mortalité liée aux catastrophes climatiques a chuté de façon spectaculaire au cours du siècle dernier.
Ah oui, ok. Pourquoi ?
Grâce à l'amélioration de notre résilience, au développement économique, au système d'alerte, etc. En gros, on est bien mieux équipé pour y faire face.
Je vois. Donc, face à toutes ces critiques sur le consensus, les données, les modèles, les extrêmes, est-ce que la source parle de la façon dont le débat scientifique lui-même se déroule ? Est-ce qu'il est ouvert ?
Oui, c'est un point à aborder vers la fin. Le texte évoque le cas de scientifiques comme Richard Lindzen ou François Gervais qui, selon la source, auraient été critiqués, voire mis à l'écart, pour leur position jugée dissidente ou sceptique. Et il cite même une phrase qui aurait été prononcée par une responsable de l'ONU, quelque chose comme « Nous sommes propriétaires de la science, we own the science », ce qui est présenté comme une illustration d'une tentative perçue de fermer le débat, de le verrouiller.
D'accord. Donc, pour résumer ce que dit ce document « Discours sur le climat », il dépeint un tableau de la science climatique beaucoup plus complexe et surtout beaucoup plus incertain que ce qu'on perçoit souvent dans le discours public ou médiatique.
C'est tout à fait ça.
Il met en lumière des contestations sur la notion même de consensus, sur la fiabilité et l'interprétation des données, sur la capacité réelle des modèles à prédire, sur le lien de causalité entre CO2 et température et sur l'attribution automatique des événements extrêmes au changement climatique.
Exactement. Et notre but aujourd'hui, c'était vraiment de présenter fidèlement cette perspective critique telle qu'elle est exposée dans cette source précise pour enrichir la réflexion de chacun sur le sujet.
Tout à fait.
Et ça nous laisse avec une question, je pense, importante qui découle directement de ces doutes soulevés par le texte. Si les incertitudes concernant les données, les modèles, les mécanismes de base sont aussi importantes que cette source le suggère, comment est-ce qu'on peut déterminer le bon niveau de certitude, le degré de confiance qu'on doit accorder aux prévisions pour guider des décisions politiques et économiques majeures, des décisions qui vont impacter très profondément nos sociétés ?
C'est une excellente question pour conclure notre analyse d'aujourd'hui.